Lorsque Luo-ji s'éveilla en sursaut, il apprit qu'une chose du passé avait traversé les siècles. Les pétards. En regardant depuis la fenêtre, il vit que le ciel avait gagné en clarté. Les lumières de l'aube transformaient le désert en une plaine blanche sur laquelle dansaient les reflets d'étincelles des pétards et des feux d'artifice. À cet instant, quelqu'un frappa nerveusement à la porte. Shi Xiaoming s'engouffra dans la chambre sans même attendre que Luo-ji lui ouvre. Son visage rougeoyait d'enthousiasme. Il pressa Luo-ji de venir voir les nouvelles télévisées. Ces derniers temps, Luo-ji regardait peu les informations. Depuis qu'il était arrivé dans le 5e village de la nouvelle vie, il avait repris un mode de vie à l'ancienne. Passé le premier choc ressenti après son réveil devant cette nouvelle époque, il appréciait maintenant cette sensation, si bien qu'il ne voulait pas qu'elle fût contrariée par des nouvelles du monde moderne. Plus encore que les jours précédents, ses pensées étaient occupées par Chuang'an et sa fille. Il avait déjà accompli les démarches nécessaires pour les sortir d'hibernation, mais en raison des régulations gouvernementales de la population des hibernautes, elles ne seraient réveillées que dans 2 mois. La télévision retransmettait l'information suivante. 5 heures plus tôt, le télescope Ringer Fitzgerald avait observé le passage de la flotte trisolarienne à travers un autre nuage de poussière interstellaire. C'était la 7e fois que l'on pouvait examiner les sillages des vaisseaux trisolariens depuis le début de leur voyage vers le système solaire. La flotte avait déjà perdu sa formation rigoureuse et la brosse actuelle ne ressemblait en rien à la première qui avait été observée. Mais comme lors de la 2e traversée d'un champ de neige, on avait remarqué qu'un poil de la brosse était un peu plus en avance que les autres. Ce qui était différent cette fois, c'était que l'étude de sa trajectoire montrait qu'il ne s'agissait pas d'une sonde, mais bien de l'un des vaisseaux. La flotte trisolarienne avait déjà achevé son accélération et avait atteint sa vitesse de croisière. 15 ans plus tôt, on avait déjà pu observer que certains vaisseaux avaient peu à peu commencé à ralentir, puis, il y avait 10 ans de cela, c'était la quasi-majorité de la flotte qui s'était engagée dans un processus de décélération. On savait désormais que l'un d'entre eux n'avait pas ralenti et qu'à en juger par sa trajectoire à travers le nuage, il était même en train de réaccélérer. Au vu de sa vitesse actuelle, il arriverait 1,5 siècle plus tôt que le reste de la flotte dans le système solaire. L'envoi d'un vaisseau solitaire vers les défenses terriennes situées aux frontières du système solaire ne pouvait constituer une invasion, ou bien alors c'était du pur suicide. Cette action ne laissait donc plus place qu'à une seule explication. Il venait pour négocier. Des observations menées pendant 2 siècles sur la flotte trisolarienne avaient déjà déterminé que chaque vaisseau était à sa capacité maximale d'accélération. On en déduisit que ce vaisseau parti en avant n'aurait pas la possibilité de décélérer à temps et dépasserait donc le système solaire. Il existait alors 2 hypothèses. La première, c'était que les trisolariens espéraient que la Terre aide leur vaisseau à ralentir. Mais une autre hypothèse était plus crédible. Avant de dépasser le système solaire, ce vaisseau relâcherait un petit appareil capable de décélérer plus facilement. Celui-ci porterait à son bord une délégation trisolarienne qui viendrait négocier.
Mais s'il désire négocier, pourquoi n'en informe-t-il pas les humains par l'intermédiaire des intellectrons ?
Demanda Luo-ji.
C'est très facile à expliquer, lança Shi Xiaoming avec enthousiasme. C'est une différence de mode de pensée. Les trisolariens ont des pensées transparentes. Ils s'imaginent que nous savons déjà ce qu'ils veulent.
Cette explication n'était guère convaincante, mais Luo-ji partageait le même sentiment que Shi Xiaoming. Dehors, le soleil s'était levé en avance. Quand le soleil se leva pour de vrai, les festivités atteignirent leur point culminant. Ce n'était pourtant ici qu'un petit coin du monde. La joie se concentrait surtout au cœur des grandes cités souterraines. Là-bas, les gens sortaient tous de leurs arbres gigantesques et se massaient dans les rues et sur les places. Leurs vêtements, réglés à la luminosité la plus intense, dessinaient des marées de lumières éblouissantes. On voyait éclater sous le dôme céleste des feux d'artifice virtuels. Parfois, l'un d'eux recouvrait même tout le ciel et sa clarté n'avait rien à envier à celle de l'astre du jour. La nouvelle ne cessait de se propager. Les gouvernements se montrèrent au début prudents, leur porte-parole rappelant qu'il n'existait aucune preuve tangible d'une volonté trisolarienne d'entamer des négociations. Mais au même moment, les Nations Unies et le comité conjoint de la flotte solaire se réunissaient d'urgence et commençaient à réfléchir sur le processus et les conditions de la négociation. Dans le cinquième village de la nouvelle vie, on put assister à un petit intermède entre deux explosions de joie. Un député de la ville était venu faire un discours. C'était un fervent partisan du programme Rayon de Soleil, qui profitait de l'occasion pour gagner le soutien des quartiers d'hibernautes. Le programme Rayon de Soleil était à l'origine d'une proposition émanant des Nations Unies dont le principal objectif était le suivant. Si jamais l'humanité remportait la victoire au cours de l'ultime bataille, il faudrait alors fournir un espace de vie aux trisolariens vaincus. Il existait plusieurs versions du programme. Le plan de survie consistait ainsi à faire de Pluton, Charon et des lunes de Neptune des réserves pour les membres de la flotte trisolarienne. Avec ce plan, les conditions de vie dans les réserves seraient médiocres et les survivants n'auraient d'autres sources d'énergie que la fusion nucléaire. Ils dépendraient donc du soutien des sociétés humaines. Le plan de protection consistait pour sa part à faire de Mars une planète pouvant accueillir non seulement les membres de la flotte trisolarienne, mais aussi des immigrants qui arriveraient progressivement de Trisolaris. En dehors de la Terre, c'était l'espace de vie le plus agréable du système solaire qui pouvait être fourni aux Trisolariens. Les autres versions du programme étaient des variantes autour de ces deux plans. Il existait néanmoins des idées plus radicales. Par exemple, d'intégrer les trisolariens aux sociétés humaines. Le programme Rayon de Soleil avait obtenu l'assentiment large des nations terrestres et spatiales, et de nombreuses recherches et programmes de planification avaient déjà été lancés. Le projet était aussi soutenu par plusieurs organisations non gouvernementales au sein des deux communautés internationales. Toutefois, le programme Rayon de Soleil rencontrait une forte résistance de la part des hibernautes. Ceux-ci avaient même donné un surnom aux partisans du projet, les Dongguo, en référence à une célèbre fable écrite par Ma Chongxi, le loup de Chongchan. Dès le début de son discours, le député dut faire face aux protestations virulentes de l'Assemblée. Certains commencèrent même à lui lancer des tomates. Le politicien se protégea en disant « Je demande votre attention !» Nous sommes à un âge humaniste, nous venons à peine de vivre la deuxième renaissance. À notre époque, la vie et la civilisation de chaque espèce doivent être traitées avec le plus grand respect. Vous-même, vous êtes baigné par les rayons de soleil de notre temps. Vous ne direz pas le contraire. Les hibernautes bénéficient aujourd'hui du même statut que tous les autres citoyens modernes. Vous ne faites l'objet d'aucune discrimination. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion de remarquer qu'il ne s'agissait pas seulement d'une reconnaissance légale inscrite dans la Constitution. C'est aussi une attitude dont font preuve tous vos contemporains. Trisolaris aussi possède une grande civilisation. La société humaine doit lui reconnaître le droit d'exister. Le programme Rayon de Soleil n'est pas un acte de miséricorde. C'est l'expression et la concrétisation même des valeurs de l'humanité. Si nous... « Abruti, concentrez-vous sur votre travail !» La dernière phrase prononcée par le député était adressée aux membres de son équipe, occupés à ramasser les tomates qui jonchaient le sol. Les tomates étaient après tout hors de prix dans la ville souterraine. Amusés par la scène, les hibernautes se mirent à lancer sur l'estrade des courgettes et des pommes de terre, et l'affrontement se termina dans la bonne humeur générale. À midi, tous festoyèrent ensemble. Un fastueux banquet fut organisé à base de produits fermiers, auxquels furent aussi conviés les habitants de la ville, dont le député Dongguo et son équipe. Les festivités se poursuivirent jusqu'au coucher du soleil. Le crépuscule fut ce soir-là magnifique. Sous les rayons orangés du soleil, la plaine de sable qui s'étendait au-delà du petit quartier paraissait aussi douce et lisse que du beurre, et les dunes vallonnées prenaient l'apparence de belles endormies. La nuit venue, l'excitation, qui était un peu retombée, atteignit de nouveaux sommets. La nouvelle venait tout juste de tomber. Les trois flottes, asiatique, européennes et nord-américaines avaient décidé de réunir l'intégralité de leurs vaisseaux interstellaires, soit 2015 appareils, en une flotte unie et de mener ensemble l'opération d'interception de la sonde trisolarienne qui avait déjà dépassé l'orbite de Neptune. La joie était à son comble. De nouveaux feux d'artifice remplirent le ciel nocturne. Toutefois, cette décision souleva quelques moqueries méprisantes.
Pourquoi mobiliser 2000 vaisseaux pour une toute petite sonde? C'est comme utiliser 2000 couteaux de boucher pour tuer un poulet.
Exactement. Ou 2000 canons pour abattre un moustique. À quoi ça rime?
Allons, essayez de les comprendre. Ce sera peut-être la seule et dernière fois que les flottes entreront en guerre contre le monde trisolarien.
Oui, enfin, si on peut encore appeler ça une guerre.
Ce n'est pas plus mal. Ce sera une manière pour la civilisation humaine de faire une démonstration de force et de passer ses troupes en revue. En envoyant une super flotte, les trisolariens seront impressionnés. Il faut qu'ils aient la trouille, qu'ils se pissent dessus. S'ils peuvent encore pisser.
Il était près de minuit quand l'information tomba. La flotte unie avait décollé de la base jovienne. On informa les citoyens humains de l'hémisphère sud qu'ils pourraient les voir à l'œil nu. Pour la première fois de la journée, les foules se calmèrent et cherchèrent Jupiter des yeux. La chose n'était pas facile pour des néophytes, mais grâce aux instructions dispensées à la télévision par un expert, les humains purent vite localiser la planète dans le sud-ouest du ciel. À cet instant, les lumières de la flotte unie avaient déjà parcouru une distance de 5 unités astronomiques en direction de la Terre. 45 minutes plus tard, la clarté de Jupiter s'intensifia brusquement. Elle dépassa bientôt celle de Sirius et la planète devint le corps céleste le plus brillant du ciel. Puis, une étoile scintillante se sépara de Jupiter comme une âme quittant un corps. La planète retrouva à nouveau sa clarté originelle, tandis que l'étoile creusait peu à peu sa distance avec elle. La flotte unie était en route. Presque au même moment, des images en temps réel de la base de Jupiter arrivèrent sur Terre. À la télévision, les gens virent la soudaine apparition de 2000 soleils dans un ciel d'encre. Dans l'éternelle nuit de l'espace avait soudain émergé une formation rectangulaire régulière. Sans se concerter, les téléspectateurs pensèrent à la même phrase. « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Sous les rayons de ces 2000 soleils, Jupiter et ses satellites paraissaient avoir pris feu. Les éclairs produits par l'atmosphère de Jupiter sous l'effet des radiations ionisantes emplirent l'hémisphère de la planète faisant face à la flotte, la recouvrant d'un immense tapis de foudre. La flotte amorça son accélération, sans que la formation en soit perturbée. Dans un bruit de tonnerre, cette immense muraille ensoleillée fut majestueusement propulsée dans les profondeurs de l'espace, comme une déclaration faite à tout l'univers de la dignité et de l'invulnérabilité de l'espèce humaine. L'esprit humain, écrasé 2 siècles plus tôt par l'image du départ de la flotte trisolarienne, obtenait enfin son ultime délivrance. À cet instant, l'océan d'étoiles de la Voie lactée atténua en silence sa propre lumière et l'homme, qui ne faisait plus qu'un avec Dieu, commença fièrement et sans rival son chemin vers le cosmos. Des larmes coulèrent de joie. Certains dans la foule explosèrent même en sanglots, assaillis par l'émotion. Jamais dans toute l'histoire, les humains ne s'étaient soudain sentis aussi heureux et fiers d'appartenir à la même espèce. Certains d'entre eux gardaient toutefois la tête froide. Luoji était l'un d'eux. Son regard traversa la foule enthousiaste et tomba sur un autre individu encore plus austère que lui, Shitsiang. Ce dernier, debout à côté d'un téléviseur holographique, était en train de fumer une cigarette et observait les réjouissances avec une totale indifférence. Luoji s'approcha de lui et lui demanda
« Comment est-ce que vous... »«
Ah, bonsoir, vieux frère, je bosse !»
dit Shitsiang en pointant la foule bouillonnante.
C'est souvent dans ces moments où tout le monde exulte que le chagrin refait surface et qu'il risque de se passer quelque chose.
Comme tout à l'heure, quand le Danguo est monté sur scène pour faire son discours. Si je ne leur avais pas fait passer des tomates, ils lui auraient balancé des pierres.
Jixiang s'était récemment vu confier la mission de chef de la police du 5e village de la Nouvelle Vie. Pour les hibernautes, il pouvait paraître étrange qu'un homme appartenant à la flotte asiatique et n'ayant plus la nationalité chinoise devint fonctionnaire du gouvernement, mais les habitants étaient unanimes pour saluer la qualité de son action.
« Et puis, je ne suis pas le genre de gars à se laisser aller à l'émotion, »
poursuivit Jixiang en donnant une tape sur l'épaule de Luoji.
« Vous non plus, vieux frère. »
« En effet, » dit Luoji en hochant la tête. « Autrefois, j'étais un homme qui ne se préoccupait que de ses plaisirs personnels et immédiats. L'avenir ne m'intéressait pas. Mais voilà, on m'a forcé à devenir le sauveur du monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une compensation pour la souffrance que j'ai endurée. Je vais dormir, Dashi. Croyez-moi ou non, ce soir, je vais vraiment pouvoir dormir. »
« Regardez votre collègue, il vient d'arriver. La victoire de l'humanité n'a pas l'air de le réjouir. »
En entendant ces mots, Luoji resta un moment interdit, puis il regarda l'individu que désignait Jixiang. Il eut la grande surprise de reconnaître l'ancien colmateur Bill Hines. Son visage était pâle, il avait l'air troublé et restait debout à une distance proche de Jixiang. C'est alors qu'il remarqua la présence de Luoji. Ils s'enlacèrent pour se saluer et Luoji remarqua que son corps tremblait. « Je suis venu pour vous voir. Seuls deux déchets de l'histoire comme nous peuvent se comprendre. Mais maintenant j'ai bien peur que même vous ne me compreniez plus, » dit Hines.
« Et Keiko Yamasugi ?» demanda Luoji.
« Vous souvenez-vous de cette pièce du siège des Nations Unies qu'ils appelaient la salle de méditation ?» répondit Hines, qui parut esquiver sa question. « L'endroit est tombé en ruine. » Seuls quelques touristes viennent de temps en temps le visiter. Vous vous rappelez ce bloc de magnétite? Keiko s'est fait seppuku dessus.
Oh! Au moment de mourir, elle m'a maudit, disant que ma vie serait désormais pire que la mort, car je me suis fait poinçonner des sentiments défaitistes alors que l'humanité a aujourd'hui gagné. Elle avait raison. Aujourd'hui, je souffre. Je suis bien sûr heureux de la victoire, mais je ne peux pas y croire. Dans ma conscience, deux gladiateurs ont entamé un combat à mort. Vous savez, c'est bien plus dur que d'essayer de croire que l'eau est potable.
Après que Jixiang et lui eurent installé Hines dans une chambre, Luoji retourna dans la sienne et s'endormit rapidement. Encore une fois, il rêva de Chuangyan et de leur enfant. À son réveil, le soleil dardait ses rayons par la fenêtre. À l'extérieur, les célébrations battaient leur plein. Le sélection naturelle naviguait à 1/100 de la vitesse de la lumière entre les orbites de Jupiter et Saturne. Derrière lui, le soleil paraissait maintenant minuscule, mais c'était encore l'étoile la plus brillante du ciel. Devant eux, la Voie lactée était pour sa part plus brillante. Le vaisseau faisait plus ou moins cap dans la direction de la constellation du Cygne, mais dans cet espace lointain sans bornes, sa vitesse était imperceptible. Si un observateur s'était trouvé dans la zone, il aurait cru que le sélection naturelle était suspendu à l'arrêt dans les tréfonds de l'espace. D'ici, les mouvements de l'univers tout entier semblaient s'être effacés, figeant le vaisseau dans un état statique, avec le soleil derrière lui et la Voie lactée devant. Le temps lui-même paraissait s'être arrêté.
« Vous avez échoué ?» dit donc Fang Yonsu à Chang Beiyei.
À part eux deux, le reste de l'équipage était encore en état de mer profonde. Chang Beiyei était toujours cloîtré à l'intérieur de sa cabine sphérique. Donc Fang Yonsu n'avait aucun moyen d'y entrer et ne pouvait dialoguer avec lui que par l'intermédiaire du système de communication interne. À travers la portion encore transparente de la cloison, elle pouvait observer cet homme qui avait détourné le vaisseau le plus puissant de l'humanité flottant paisiblement au milieu de sa cabine sphérique. Tête baissée, il semblait perdu dans l'écriture de son carnet.
Devant lui s'affichait encore l'interface sur laquelle on pouvait voir que le vaisseau était repassé dans le mode attention qui était le sien avant l'accélération avant toute. Il n'était nécessaire que d'appuyer sur un bouton pour entrer à nouveau dans ce dernier mode. Autour de lui voltaient encore quelques bulles de fluide d'accélération n'ayant pas encore été évacuées. Son uniforme était sec mais froissé, ce qui lui donnait l'air beaucoup plus vieux qu'il n'était. Zhang Beiyei ne prêta pas attention à Dongfang Yuansu et continua à écrire, toujours tête baissée. Les vaisseaux de poursuite ne sont plus qu'à 1 200 000 kilomètres.
Je sais, dit Zhang Beiyei sans pour autant lever la tête. Vous avez fait preuve de sagesse en laissant le reste de l'équipage en état de mer profonde.
C'était la seule chose à faire. Sinon, les officiers et les soldats en colère auraient attaqué votre cabine et vous auriez pu réactiver à tout moment le mode avant toute, tuant tout le monde à bord. C'est aussi pour cette raison que les vaisseaux de poursuite ne s'approchent pas davantage.
Zhang Beiyei ne dit rien. Il tourna une page de son carnet et continua à écrire.
« Vous ne feriez pas ça, n'est-ce pas ?» demanda doucement Dongfang Yuansu.
Vous n'aviez pas imaginé ce que j'allais faire à mon arrivée à bord. » Puis Zhang Beiyei s'interrompit quelques secondes avant de compléter.
« Les gens de mon époque ont leur manière de réfléchir.
Mais nous ne sommes pas ennemis.
Il n'y a jamais d'ennemis ou de camarades permanents. Il n'y a qu'un devoir permanent.
Votre pessimisme au sujet de l'issue de la guerre est irrationnel.
Trisolaris a déjà donné des signes de sa volonté de négocier. Les vaisseaux des trois flottes se sont mis en route pour intercepter la sonde trisolarienne. La guerre s'achèvera par la victoire de l'humanité.
J'ai vu les dernières informations.
Vous persistez dans votre défaitisme et votre évasionnisme?
Oui.
Dongfang Yuansu hocha la tête, impuissante. Votre façon de penser est vraiment trop différente de la nôtre. Par exemple, vous saviez dès le début que votre plan allait échouer, car la sélection naturelle n'avait qu'un cinquième des combustibles à son bord. Vous alliez forcément être rattrapé.
Zhang Beiyei cessa le mouvement de son crayon et leva la tête pour regarder Dongfang Yuansu à l'extérieur de la cabine. Son regard était aussi calme que l'eau d'un lac.
« Nous sommes tous des soldats. Mais savez-vous quelle est la plus grande différence entre nos deux époques ? Vous agissez en prévision des résultats plausibles. Mais nous, quelle que soit l'issue, nous faisons tout ce qui est de notre devoir. C'était ma seule chance. Je l'ai saisie.
Vous dites cela pour vous consoler ?
Non, c'est dans ma nature. Dongfang, je ne m'attends pas à ce que vous puissiez comprendre. Après tout, 2 siècles nous séparent.
Maintenant que vous avez fait tout ce qui était de votre devoir, rendez-vous. »
Zhang Beiyei sourit à Dongfang Yuansu, puis il inclina la tête et reprit son écriture.
« Le moment n'est pas encore venu. Je vais écrire tout ce que j'ai vécu ici, tout ce qui s'est passé depuis 2 siècles. Et dans les 2 siècles à venir, peut-être que quelqu'un aux idées claires pourra s'en servir. »
Vous pourriez dicter à l'ordinateur.
Non, j'ai l'habitude d'écrire à la main. Le papier se conserve de toute façon plus longtemps qu'un ordinateur.
Ne vous inquiétez pas, j'assumerai mes responsabilités.
Ding Yi regarda à travers le vaste hublot du Quantum. Même si l'écran holographique de la cabine permettait d'avoir une meilleure vue, il préférait voir les choses de ses propres yeux. Et il voyait maintenant qu'il était situé sur une gigantesque plateforme constituée de 2000 petits soleils aux lumières aveuglantes, dont les rayons paraissaient enflammer ses cheveux blancs. Depuis quelques jours que la flotte unie avait décollé, il avait eu l'occasion de se familiariser avec ce paysage, mais il demeurait invariablement fasciné par sa magnificence. Si la flotte avait adopté cette formation rectangulaire, ce n'était pas seulement pour faire étalage de sa force ou de sa puissance. En effet, si elle avait au contraire choisi d'opter pour une formation navale plus traditionnelle, une formation en ligne de fil par exemple, les radiations produites par les moteurs de chaque vaisseau auraient eu un impact sur les vaisseaux derrière eux. Dans ce type de formation en rectangle, les vaisseaux étaient séparés de 20 km les uns des autres.
Même si la taille moyenne de ceux-ci était de 3 à 4 fois supérieure à celle d'un porte-avions, ils n'étaient visibles à cette distance que sous la forme de points et ne révélaient leur existence que grâce au halo de leurs moteurs à fusion. La formation de la flotte unie était extrêmement dense, une densité qui n'avait jamais eu de précédent, même lors des passages en revue des troupes. D'ordinaire, en formation de croisière, les appareils devaient se trouver à une distance comprise entre 300 et 500 kilomètres les uns des autres. 20 kilomètres, c'était comme une navigation rapprochée, coque à coque, dans l'océan. De nombreux commandants des trois flottes avaient fait part de leurs doutes face à la densité de la formation. Néanmoins, les formations conventionnelles n'étaient pas sans poser des problèmes insolubles. Tout d'abord, il fallait garantir le principe d'égalité de chances de participation à la bataille. Si la flotte approchait de la sonde en formation classique, même si elle se trouvait à une distance extrêmement restreinte, l'extrémité serait encore à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de la cible. Si un combat éclatait lors de la capture de la sonde, une grande partie de la flotte ne pourrait pas être considérée comme ayant pris part à la guerre et serait reléguée aux oubliettes de l'histoire. De plus, les trois flottes refusaient de rompre leur propre division, car il était impossible de décider laquelle tiendrait une position stratégique majeure dans la formation globale. Il n'y avait donc qu'une possibilité, faire une formation la plus dense possible, similaire à celle utilisée lors du passage en revue des troupes, mais au sein de laquelle les vaisseaux se trouveraient à distance de combat de la sonde. Une autre raison permettait de justifier le choix de cette formation. Les trois flottes spatiales, comme les Nations Unies, voulaient marquer visuellement les esprits, pas tant ceux des trisolariens que ceux des masses humaines. Ce choc visuel inédit portait un sens politique fort pour les deux entités internationales. Enfin, les principales forces ennemies se trouvant encore à 2 années-lumière, même avec une formation aussi rapprochée, la flotte ne courait aucun risque. Le Quantum était situé dans un angle de la formation. Ding Yi pouvait donc avoir une vue panoramique sur la majorité de la flotte. Après avoir dépassé l'orbite de Saturne, les moteurs à fusion avaient été tournés vers l'avant et les vaisseaux avaient commencé à ralentir. À présent, la flotte se trouvait à une distance proche de la sonde trisolarienne et sa vitesse était négative. La cible faisant cap vers le Soleil, les vaisseaux repartaient en arrière, s'efforçant de garder avec elle une vitesse relative nulle pour procéder à son interception. Ding Yi porta sa pipe à la bouche. On ne trouvait déjà plus de tabac à pipe à cette époque, de sorte que ce qu'il serrait maintenant entre les dents était une pipe vide. Après 2 siècles, elle avait encore quelques relents de tabac, mais ils étaient aussi confus et indistincts que le souvenir d'un passé lointain. Ding Yi avait été réveillé 7 ans plus tôt et avait retrouvé son poste de professeur de physique à l'université de Pékin. L'année précédente, il avait adressé une requête au comité conjoint de la flotte solaire. Il voulait être le premier homme à examiner la sonde lorsque celle-ci aurait été interceptée. Bien que bénéficiant encore aujourd'hui d'un grand prestige, sa requête avait longtemps été rejetée, jusqu'au jour où il menaça de sauter la vie devant les amiraux des trois flottes si on lui opposait une fois encore un refus. On lui promit alors de reconsidérer sa demande. En réalité, le choix du premier humain qui approcherait la sonde était épineux. Approcher la sonde revenait à entrer pour la première fois en contact avec le monde trisolarien, et selon le principe d'égalité prôné au sujet de l'interception, il n'était permis à aucune des trois flottes de pouvoir jouir seule de cette gloire. D'un point de vue opérationnel, il était complexe d'envoyer plusieurs membres issus des trois flottes pour entrer en contact avec elles, car cela engendrerait d'autres complications. Aussi, seul un individu n'appartenant pas à la flotte solaire pouvait assumer cette tâche. Le docteur Ding Yi était sans nul doute le candidat le plus qualifié, si bien que la requête de ce dernier fut finalement acceptée. Une autre raison officieuse avait été à l'origine de ce choix. Ni les flottes spatiales ni les nations terrestres n'étaient confiantes dans la possibilité de récupérer la sonde intacte, car pendant ou après l'interception, on pouvait être à peu près sûr qu'elle s'autodétruirait. Dès lors, Il fallait absolument en tirer le maximum d'informations avant sa destruction. Dans cette optique, l'observation proche de la sonde était indispensable. En tant que physicien vétéran, découvreur du macroatome et pionnier de la fusion nucléaire contrôlée, Ding Yi avait le profil tout indiqué pour mener cette opération. Après tout, c'était sa vie qu'il acceptait de risquer, et à 83 ans, ses accomplissements inégalés lui donnaient le droit de faire selon sa volonté. Avant le début de l'interception, lors de la dernière réunion du système de commandement du Quantum, Ding Yi vit une image de la sonde trisolarienne. Les trois petits vaisseaux envoyés par les trois flottes avaient remplacé l'ombre bleue qui appartenait à la flotte terrestre. L'image avait été prise à une distance de 500 km, la distance la plus proche à ce jour entre un appareil humain et la sonde. Sa taille était approximativement la même que ce qui avait été prédit, 3,5 mètres de long. Quand Ding Yi la vit, la même image mentale émergea dans son esprit comme dans celui de tous les autres passagers. Une gouttelette de mercure. La sonde avait la forme d'une gouttelette parfaite. Elle était ronde à sa proue et effilée à sa poupe. Sa surface lisse était entièrement réfléchissante. La voie lactée y reflétait des motifs de lumière coulante, ce qui donnait à la gouttelette une impression de beauté et de pureté. Sa coque était si naturelle que les observateurs auraient presque pu croire qu'elle était en fait à l'état liquide et ne pouvait avoir de structure interne. Après avoir vu cette image, Ding Yi plongea dans le silence. Il ne prit pas la parole de toute la réunion. Son visage était nébuleux.
« Maître Ding, vous paraissez soucieux, » dit le commandant.
« Je ne le sens pas très bien, » répondit Ding Yi à voix basse. Puis il désigna l'image de la sonde avec sa pipe.
« Pourquoi donc? On dirait une œuvre d'art inoffensive ?» dit un officier.
« C'est bien pour ça que je suis inquiet, » dit Ding Yi en secouant sa tête couverte de cheveux blancs. « On dirait une œuvre d'art, pas une sonde interstellaire. » Qu'un tel objet soit si éloigné de nos conceptions cognitives n'est pas un bon présage.
Certes, cet engin est un peu étrange, sa surface semble entièrement close.
Et où est la tuyère de ses moteurs?
En effet, nous avons pourtant pu observer dans le passé que ses moteurs émettaient de la lumière. Malheureusement, l'ombre bleue n'a pas eu le temps de la photographier avant qu'elle s'éteigne une nouvelle fois. Par conséquent, nous ignorons la source de sa lumière.
« Et pour ce qui est de sa masse ?» demanda Ding Yi.
Nous n'avons pas encore de données précises. Nous pouvons seulement en donner une estimation grossière grâce à un instrument gravitationnel de haute précision. Moins de 10 tonnes, probablement. Au moins, on peut être sûr qu'elle n'est pas fabriquée à partir de matière d'étoiles à neutrons. »
Le commandant interrompit la discussion des officiers et reprit le fil de la réunion.
« Maître Ding, voici comment se passera votre investigation. Lorsque le vaisseau sans pilote aura capturé la cible, il procédera à une première phase d'observation. S'il ne détecte rien d'anormal, vous emprunterez une navette qui vous conduira dans le vaisseau de capture. Vous pourrez alors procéder à un examen rapproché de la cible. Le temps que vous utiliserez pour cette observation ne devra pas excéder 15 minutes. Je vous présente la Major Tsi-Tsi. En tant que représentante de la flotte asiatique, elle vous accompagnera durant votre observation. »
Une jeune officière présenta ses respects à Ding Yi. Comme toutes les autres femmes de la flotte, elle était grande et fine, l'archétype même de la nouvelle humanité spatiale. Ding Yi ne jeta qu'un rapide regard sur la major et se tourna vers le commandant.
« Comment se fait-il que quelqu'un m'accompagne? Je ne peux donc pas y aller seul ?»
« Impossible, maître Ding. Vous n'êtes pas familier de l'environnement spatial et vous aurez besoin de quelqu'un pour vous assister tout au long du processus. »«
Si c'est ça, je préfère encore ne pas y aller. Pourquoi quelqu'un doit-il m'accompagner jusqu'à... »
Ding Yi s'arrêta sans prononcer les mots suivants. « La mort. »
« Maître Ding, » dit le commandant, « la manœuvre est risquée mais pas périlleuse. Si la sonde doit s'autodétruire, elle le fera certainement lors de la capture. » Si 2 heures après la capture, elle n'a pas enclenché de dispositif d'autodestruction,
la possibilité qu'elle le fasse après devrait être très faible. En réalité, la raison première de l'envoi par les flottes internationales d'un être humain pour inspecter la sonde n'était pas simplement scientifique. Quand le monde entier verrait pour la première fois l'image de la sonde, il s'émerveillerait devant sa magnifique coque. Cette gouttelette de mercure était extraordinairement belle. Malgré sa forme épurée, elle était ouvragée avec une minutie hors du commun. Chaque point de sa surface courbe était au bon endroit. Elle débordait de grâce, comme si elle perlait à chaque instant dans la nuit hivernale. Elle donnait le sentiment que même si les artistes humains essayaient de reproduire ce genre de surface close, courbe et lisse, la conception leur serait impossible. Cette forme parfaite ne se trouvait pas même dans la République de Platon. Elle était plus rectiligne qu'une ligne droite et plus circulaire qu'un cercle parfait. C'était un dauphin à la peau miroitante bondissant depuis un océan de rêves, la cristallisation de tout l'amour de l'univers. La beauté s'accordait toujours avec la bienveillance, et s'il existait vraiment dans l'univers une ligne de frontière entre le bien et le mal, elle se tenait nécessairement du côté du bien. Aussi, une autre hypothèse émergea soudain. Celle que cet objet n'était absolument pas une sonde. Des observations plus détaillées allèrent dans le sens de cette supposition. On avait remarqué que son très haut degré de finition rendait sa surface parfaitement réfléchissante. La flotte avait procédé à une expérience sur la sonde en utilisant un grand nombre d'équipements de surveillance. On avait irradié sa surface avec des ondes électromagnétiques de haute fréquence et de différentes longueurs et mesuré leur réflectivité. On avait eu la surprise de découvrir que sa surface reflétait 100% des ondes, y compris la lumière visible, et qu'aucun phénomène d'absorption n'avait été détecté. Cela signifiait donc que ce qu'on croyait être une sonde était incapable de détecter des ondes à haute fréquence. Dit plus vulgairement, elle était aveugle. Cet auto-aveuglement devait forcément renfermer un sens particulier, et l'hypothèse la plus rationnelle était la suivante. Il s'agissait d'un objet rituel envoyé au monde humain, dont la beauté et la conception non fonctionnelle étaient un gage de bonne intention. Elle exprimait un désir sincère de paix. Par conséquent, les humains ne parlèrent plus de sonde et la désignèrent simplement par son apparence de gouttelette. Dans les deux mondes, l'eau était la source de la vie et le symbole de la paix. L'opinion publique considéra que l'on devait envoyer une délégation officielle humaine pour entrer en contact avec la gouttelette, et pas seulement un groupe d'observation composé d'un physicien et de trois officiers ordinaires. Mais après réflexion, les flottes décidèrent de maintenir leur projet initial.
Ce qui veut dire que je ne peux toujours pas y aller tout seul. Vous allez vraiment laisser cette fille ?
Commença à dire Ding Yi en pointant Si Tsi du doigt. Celle-ci lui sourit. Maître Ding, je suis l'officier scientifique du Quantum. Je suis chargé des expéditions scientifiques du vaisseau. C'est mon métier.
Et puis je vous rappelle que la moitié de la flotte est composée de femmes, dit le commandant. Ce seront en tout trois officiers qui vous accompagneront. Les deux autres sont aussi des officiers scientifiques envoyés par les flottes européennes et nord-américaines. Ils nous rejoindront bientôt sur le vaisseau. Maître Ding, permettez-moi d'insister sur un point. Faites comme il a été dit durant la réunion du comité conjoint de la flotte solaire. Soyez le premier à être en contact avec la cible. Les autres ne seront autorisés à la toucher qu'après vous.
Quelle futilité !
Cracha Ding Yi en secouant encore la tête.
De ce côté, l'humanité n'a pas changé. Toujours la même recherche de la vanité. Mais soyez tranquille, je coopérerai. Je veux simplement la voir, après tout. Ce qui m'intéresse davantage, ce sont les super théories qui se cachent derrière ces super technologies. Mais je crois que ma vie... Ah.
Le commandant vint planer devant le physicien et s'adressa à lui avec sollicitude.
Maître Ding, prenez maintenant un peu de repos. L'opération de capture va bientôt débuter. Vous aurez besoin de toute votre énergie avant de sortir examiner la gouttelette.
Ding Yi observa le commandant. Il ne comprit qu'au bout d'un long moment que la réunion se poursuivrait après son départ. Il se retourna et détailla à nouveau des yeux l'image de la gouttelette. Alors seulement, il s'aperçut que sa proue circulaire reflétait des points de lumière parfaitement réguliers qui se déformaient petit à petit en allant vers la poupe, avant de se fusionner avec les motifs lumineux de la Voie lactée. Le reflet de la flotte. Il regarda à nouveau les officiers du Quantum qui flottaient devant lui. Ils étaient tous très jeunes. Aux yeux de Ding Yi, ces humains étaient encore des enfants. Des capitaines ou commandants, ils paraissaient tous si nobles et si parfaits qu'une sagesse presque divine luisait dans leurs yeux. Les rayons lumineux de la flotte percèrent à travers les hublots en franchissant leurs vitres auto-obscurcissantes, les enveloppant de la clarté dorée du crépuscule. Derrière eux était suspendue l'image de la gouttelette, comme un symbole argenté surnaturel, faisant régner dans la pièce une atmosphère mystique et transcendante. Ils avaient l'air de dieux de l'Olympe. Le cœur de Ding Yi chavira d'émotion.
« Maître Ding, avez-vous quelque chose à ajouter ?» demanda la commandante.
« Oh, je voudrais dire... »
Il agita confusément les mains, laissant sa pipe flotter dans l'air.
« Mes enfants, je voudrais vous remercier. Ces derniers jours, vous m'avez bien traité. Vous êtes l'homme le plus estimé ici, » dit un vice-commandant.
« Oh, alors j'aurais vraiment quelque chose à dire. C'est juste... ce ne sont peut-être que les délires d'un vieux débris. Vous n'êtes pas obligé de me prendre au sérieux. Mais, mes enfants, j'ai quand même traversé 2 siècles. J'ai vu et vécu beaucoup de choses. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas forcé de me prendre au sérieux.
Maître Ding, si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Je vous assure que vous avez notre plus grand respect.
Ding Yi hocha lentement la tête et pointa le plafond.
Ce vaisseau, s'il veut atteindre la vitesse d'accélération la plus grande, tout son équipage doit être immergé dans un liquide.
Oui, en état de mer profonde.
Oui, c'est ça, en état de mer profonde.
Ding Yi hésita encore et attendit un moment avant de finir sa phrase.
Lorsque nous serons partis en observation, ce vaisseau, le Quantum, pourra-t-il entrer en état de mer profonde ?
Les officiers échangèrent des regards surpris.
« Pourquoi ?» demanda le commandant.
Les deux mains de Ding Yi s'agitèrent à nouveau, ses cheveux blancs chatoyaient sous les rayons de la flotte. Comme quelqu'un l'avait fait remarquer lorsqu'il était monté à bord, il ressemblait vraiment à Einstein.
Oui, quoi qu'il en soit, ça ne vous coûte rien, n'est-ce pas ? Vous savez, j'ai un mauvais pressentiment. »
Une fois qu'il eut prononcé ces paroles, le silence se fit. Son regard se perdit dans le lointain infini. Il finit par tendre une main pour attraper sa pipe et la remettre dans sa poche. Sans dire au revoir, il activa maladroitement sa ceinture supraconductrice et s'envola par la porte de la cabine. Les officiers accompagnèrent sa sortie du regard. Quand la moitié de son corps eut passé la porte, il se retourna lentement.
« Mes enfants, savez-vous ce que j'ai fait ces dernières années ? J'ai enseigné la physique à l'université, j'ai même dirigé des doctorants. »
Il regarda la Voie lactée et un sourire énigmatique s'esquissa sur son visage. Les officiers remarquèrent qu'il était étrangement empreint de tristesse.
« Mes enfants, je suis un homme de 2 siècles passés, mais je peux encore aujourd'hui enseigner la physique à l'université. »
Il termina par ces mots, se retourna, est parti. Le commandant aurait encore voulu dire quelque chose à Ding Yi, mais s'apercevant qu'il était parti, il n'en fit rien. Il réfléchissait, la mine grave. Certains des officiers regardaient encore l'image de la gouttelette, mais la plupart d'entre eux fixaient le commandant.
« Commandant, vous n'allez quand même pas prendre ces paroles au sérieux ?» demanda un major.
« C'est un scientifique très sage, certes, mais c'est un homme du passé. Et leur manière de voir le monde aujourd'hui est toujours un peu... »
renchérit quelqu'un d'autre.
Dans son domaine, l'humanité n'a pas connu le moindre progrès. Nous sommes restés bloqués à son époque. Il a parlé de pressentiments. Imaginez tout ce que son intuition a permis de découvrir jusqu'à aujourd'hui, dit un officier avec une voix débordant de révérence. Et puis, lâcha Tsitsi. Mais son regard croisa celui d'officier plus gradé qu'elle et elle n'osa pas aller plus loin. Parlez, Major. Et puis, comme il nous l'a dit, ça ne nous coûte rien, dit-elle. Voyons les choses autrement, affirma un vice-commandant. Selon le plan de bataille actuel, si l'action de capture de la gouttelette échoue, qu'elle s'échappe par surprise, il n'y aura que des chasseurs spatiaux pour la poursuivre. Mais s'il faut mener une poursuite longue, il faudra compter sur un vaisseau interstellaire. Il faut donc bien que l'un d'entre eux part à cette éventualité. On peut voir cela comme une manière de pallier une négligence dans le plan. Envoyez un rapport à la flotte, trancha le commandant. La réponse de la flotte fut rapide. Après le départ de l'équipe d'observation, le Quantum, ainsi qu'un autre vaisseau interstellaire voisin, l'Âge de Bronze, entrerait en état de mer profonde.